Que le nom du Seigneur soit béni. Quelle grâce de nous retrouver sous son regard pour faire des progrès. J'aimerais que nous lisions avec ensemble ce texte, puisque nous allons poursuivre notre étude sur le fruit, qui sont la conséquence d'être un disciple. Jean chapitre 15, on va lire le verset qui nous intéresse, c'est le verset 8. Un verset où il nous est rappelé ce qu'est un disciple. Jean chapitre 15, verset 8. « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Voilà quand est-ce qu'on devient disciple. Quand est-ce qu'on devient disciple? Quand on porte du fruit. Alors est-ce que c'est votre désir, ça, de porter du fruit? Est-ce que vous portez du fruit? C'est une question. C'est une vraie question. Qu'on peut poser dans l'église du Seigneur, est-ce que je porte du fruit? C'est une question que je dois nous poser pour que l'on puisse ne pas se rassembler en vain, pas se rassembler pour rien, pas pour entendre une prédication de plus, mais que vous puissiez dans demi-heure dire « oui, je suis un vrai disciple ». Je vous assure que dimanche, j'ai vu une situation où j'ai dû discuter avec quelqu'un et dire à un croyant, mais vous n'êtes pas croyant, vous n'êtes pas chrétien. Et le gars, il s'acharnait à dire, mais si, je suis baptisé, je suis chrétien. Je dis, non, avec ce qu'il venait de me dire, avec le fruit qu'il me présentait, je peux vous dire que ce garçon n'était pas chrétien. Il croyait qu'il était chrétien parce qu'il croyait en Dieu. Alors, on va lire un texte quand même qui vaut la peine d'être lu. C'est dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques, il y a un texte qui m'a beaucoup aidé à aider les gens justement. Les gens s'imaginent que parce qu'ils croient, ils sont chrétiens. Mais nous allons voir une catégorie de personnes qui croient, et je peux vous dire qu'ils sont très loin de Dieu. Jacques chapitre 2, verset 17. Vous avez certainement déjà dû lire ce texte. Jacques chapitre 2, verset 17. Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient. Et même plus, regardez. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Oui, ils ont de quoi trembler. Parce que eux, ils savent très bien ce qui les attend. Ils ont choisi délibérément d'abandonner Dieu et croyez-moi, ils tremblent parce qu'ils attendent le jugement. Et ils croient vraiment. Et il y a des chrétiens qui croient et que parce qu'ils croient, ils s'imaginent qu'ils sont des disciples. Et moi, je vous assure, mes frères et sœurs, c'est entré dans les mœurs, c'est banalisé. Énormément de gens croient en Dieu, comme les démons, et ils se tremblent peut-être même pas eux, mais je peux vous dire qu'ils ne sont pas devenus des disciples. Alors on va lire un texte, on va lire plusieurs, pour aller plus loin dans cette dimension, bien sûr. Dans le psaume premier, vous connaissez le psaume premier? Il fait partie de ces psaumes qu'il faut apprendre par cœur. Job. Dans le psaume premier, il est parlé d'une catégorie de personnes, de chrétiens. J'ai pris ce texte parce qu'il est parlé du fruit et parce qu'il est parlé également du bonheur. Je pense que c'est bien de réaliser que Dieu a tout prévu pour que l'homme soit heureux. Est-ce que ça vous fait du bien de savoir que Dieu veut que l'homme soit heureux? Non? C'est important? On a besoin d'être heureux. Oui ou non? On a besoin. Il y a des moments d'épreuve, il y a des moments de difficulté, mais aussi on peut être heureux. Alors regardez qu'est-ce que dit le psaume premier. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite le mardi soir. Pardon. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs,
mène à la ruine. Amen.
Donc dans ce texte, il est parlé des justes et des méchants et des pécheurs. Il y a trois catégories de personnes, les justes, les impies et les pécheurs. On va y revenir tout à l'heure, ça vous permettra de comprendre un peu mieux le sujet. Donc, il y a une catégorie de gens qui sont bénis, qui sont justes, parce qu'ils ne marchent pas en compagnie, vous avez vu, ils ne marchent pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrêtent pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assient pas en compagnie des moqueurs. Je me souviens d'une chrétienne, quand je suis arrivé ici, qui me disait, Monsieur Gau, je me fais du souci, mon mari, il écoute telle radio. Alors elle m'a dit, la radio, elle me dit, c'est quoi? Elle me dit, alors c'était Rire et Chanson. Je ne savais pas ce que c'était, moi, Rire et Chanson. Alors j'ai dit, écoutez, je ne sais pas ce que c'est, mais elle dit, qu'est-ce que vous en pensez? Ben, j'ai dit, je vous dirai ce que j'en pense. Alors en partant de la maison, j'ai écouté Rire et Chanson. J'ai écouté 10 minutes. Et c'était que de la moquerie. C'était que des hommes qui font des one-man shows, qui se moquent des gens. Et j'ai dit à cette sœur, votre mari, s'il aime ça, il fait partie des moqueurs. Et il n'ira pas loin. Et effectivement, cet homme a trompé sa femme. Ils ont divorcé, enfin, le pataquès, comme on dit, fini. Dieu est clair. Heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Je ne sais pas si vous êtes moqueur. Il y a des gens qui aiment se moquer, ils se moquent parce que quelqu'un est gros, ils vont se moquer de quelqu'un qui est gros, parce que quelqu'un est maigre, il y a des gens, ils se moquent. Dieu est catégorique. Vous savez, dans les psaumes, il y a la liste des choses que Dieu est. H-A-I-T. Et laissez-moi vous dire que ça vaut la peine de les apprendre. Mais s'il y a bien une chose que Dieu n'aime pas, c'est bien les moqueurs. Et un chrétien qui veut porter du fruit, il ne se moque pas. Il y a des choses qui sont marrantes, il y a des choses qui sont risibles, il y a des choses qui sont rigolotes, mais je pense qu'il faut bien faire la différence entre ce qui est risible et ce qui ne l'est pas. Et les moqueurs font partie de cette catégorie de gens qui n'ont pas la crainte de Dieu. Le résultat, il est qu'on ne porte pas de fruits. Vous allez me dire, ouais, mais il faut bien rire. Oui, mais je pense, comme je l'ai souvent dit, qu'il y a une joie qui n'a rien à voir avec le rire, mais qui a à voir avec la présence du Seigneur. Alors vous avez vu, celui-là, il porte du fruit. Vous lirez le contexte, parce qu'il faut que vous appreniez à méditer la parole de Dieu en comprenant que Dieu sépare, en vérité, Dieu sépare l'humanité en deux. D'un côté, il y a les perdus, et de l'autre, il y a les sauvés. Mais dans les sauvés, il y a les justes et il y a les méchants. Et les méchants sont en danger parce qu'ils peuvent se perdre, parce qu'ils reviennent sur le terrain du péché, vraiment. Alors, ce soir, on va parler de la justice. Parce que le fruit, c'est quoi le fruit pour vous? On en a parlé mardi dernier. Vous vous rappelez, on a discuté des fruits. On avait terminé, vous vous rappelez avec quel verset on avait terminé? Avec quel verset on avait terminé mardi dernier? T'étais pas là? Avec quel verset on avait terminé? Alors, vous vous rappelez? Non? Galates 5:22, ça vous dit rien? Non? On n'avait pas terminé, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix, la joie. Il y a du fruit. Et moi, je veux que ce soir, nous puissions dire, mais quel est le fruit que je porte? Alors, plusieurs fois dans la Bible, il revient cette notion, le fruit de la justice. Ça revient souvent. Alors, on ne se rend pas compte, Dieu nous parle, quels sont les choix que nous faisons, comme ce soir, le Saint-Esprit peut vraiment vous parler, vous montrer. Peut-être que vous êtes un moqueur et qu'il faut absolument que vous régliez cette affaire, que ce n'est pas du rire innocent, mais que c'est vraiment quelque chose de bête et que ça, il faut que vous vous en débarrassiez. Mais il y a une justice. Dieu aime que quelqu'un soit juste. Vous savez, on lit souvent des versets, on a l'impression que ça s'adresse à tous les chrétiens quand il est dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il n'est pas dit la prière des chrétiens. La prière fervente du juste. Ça montre bien qu'il y a une catégorie de chrétiens qui sont devenus justes. Alors quelqu'un va me dire, oui, mais à partir du moment où on a accepté le sang de Jésus, on est juste. Alors, c'est vrai ou c'est pas vrai? Ah, voilà. Allez-y, continuez. Oui, on est justifié. Lorsque quelqu'un accepte Jésus-Christ comme sauveur, et qu'il se repent de ses péchés, la Bible dit qu'il est gratuitement justifié. Que Jésus a été fait pour nous justice. Il est notre justification. Mais il y a une très grande différence entre le fait que Jésus soit notre justice et que nous, de notre côté, nous nous mettions à pratiquer la justice. Et c'est pour cela que nous avons tolérer beaucoup de choses dans les églises, parce que tout le monde se gargarise en disant « Jésus-Christ est ma justice », on a plein de cantiques qui l'expliquent, et c'est bien. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas parce que Jésus-Christ est notre justice que ça nous permet de faire n'importe quoi, bien au contraire. Quelqu'un qui a accepté Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur va s'appliquer à rechercher la justice. Il a le souci d'écouter Dieu lui parler. Lorsqu'il fait une erreur, il écoute ce que Dieu a à lui dire. Prenons un exemple, avant d'entrer dans le vif du sujet. Caïn et Abel. Caïn et Abel, vous connaissez Caïn et Abel ? C'était deux frères. Deux frères qui avaient moins de pollution qu'à l'époque. Leurs parents étaient bien. Est-ce qu'ils étaient bien, les parents de... Hein ? Parce qu'aujourd'hui, on a, oui, vous comprenez, mon père, c'était un alcoolique. Alors, bon, quand on voit les parents d'Abel et de Caïn, c'était des gens bien quand même, non ? Hein ? Qui c'était les parents de Caïn et d'Abel ? Adam et Ève. Bon, je veux dire, c'était quand même... Il y avait moins de difficultés qu'aujourd'hui quand même, non ? Oui ? Moins d'accidents de la route, par exemple, etc. Bon. Regardez bien. Parce que et je vous dis ça exprès, je fais un peu d'humour, c'est peut-être pas fin, mais... Je vous dis ça pour que nous arrêtions de chercher des coupables par rapport à nos problèmes. Nous sommes responsables, souvent, des choix que nous faisons. Quand on lit dans le livre de la Genèse, au chapitre 4, ils savaient très bien ce qu'ils avaient à faire. Ils savaient très bien ce qu'ils avaient à faire. Genèse, chapitre 4, verset 3. Et nous aussi, nous devrions savoir ce que nous avons à faire avec la parole du Seigneur. Genèse, chapitre 4, verset 3. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Vous voyez, ça commence mal. À la place de peut-être de demander une explication... Il s'irrite contre Dieu, contre son frère. Vous savez, quand on commence souvent à s'irriter contre quelqu'un, on ne se rend pas compte que c'est contre Dieu qu'on s'irrite. Alors, Dieu voyant l'état de son âme, qu'est-ce qu'il fait ? Verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité ? Pourquoi ton visage est-il abattu ? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Vous connaissez la suite. Il a très mal réagi, et la jalousie s'est transformée en haine, la haine s'est transformée en meurtre. Et il a tué son frère, et vous connaissez la suite, parce que monsieur n'a pas accepté le reproche du Seigneur qui lui expliquait qu'il y avait des sacrifices que Dieu n'accepte pas. Il y a des sacrifices qui ne servent à rien. Il fallait offrir un sacrifice sanglant. Bien sûr qu'il s'est décarcassé à faire les fruits de la terre. C'était peut-être beaucoup plus même difficile d'apporter des sacrifices de Caïn que les sacrifices d'Abel, parce que lui, il a juste sacrifié un agneau. Mais cela nous rappelle dès le départ que le seul sacrifice que Dieu approuve, c'est le sacrifice qui est fait au nom du Seigneur Jésus. Et la Bible parle beaucoup du sacrifice, souvent des sacrifices. Et justement, il y a le sacrifice des insensés et le sacrifice de justice. J'en ai déjà parlé. La justice, c'est quelque chose d'important. Les sacrifices de justice. Comment Dieu me voit ? Comment Dieu me voit ? Est-ce que c'est une question que vous vous êtes déjà posée ? Quand Dieu vous regarde, est-ce que Dieu vous regarde ? Est-ce que Dieu vous voit ? Oui, il vous voit. Comment Dieu vous voit ? Voilà. Dieu nous voit normalement au travers du sang de Jésus. Quand on s'approche de lui, on peut s'approcher de Dieu. On peut s'approcher de Dieu quand on veut, parce que nous avons accepté le sang précieux de Jésus. Dieu nous voit au travers du sang de son Fils. Mais il faut que nous comprenions une chose. C'est que Caïn et Abel étaient deux frères qui avaient entendu le même enseignement, qui savait exactement ce qu'il fallait faire, et pourtant il y en a un qui a été juste et l'autre qui a été injuste. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un qui a fait à sa guise. Et le fruit, parce qu'on est dans le fruit, nous ne perdons pas le fil. Un disciple, c'est quelqu'un qui porte du fruit. Il a le devoir de porter du fruit. On reconnaît un disciple au fruit, comme ce monsieur dont je vous parlais en introduction de la prédication, mais il était, lui m'a dit, mais si, je vous assure, monsieur Gault, que je suis un chrétien. J'ai dit, non, vous n'êtes pas un chrétien. Et on reconnaît un disciple, on l'a lu, c'est à ceci que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples, si vous portez du fruit. Alors on va prendre quelques exemples. Il y a beaucoup de gens qui ont un cœur qui ne travaille pas, dont le fruit n'arrive pas à mûrir. C'est pour ça qu'il y a plein de fils prodigues. Vous entendez souvent parler des fils prodigues ? Est-ce que vous priez pour les fils prodigues ? Vous avez vu la quantité de gens qui prennent le baptême, qui viennent dans les églises et qui décrochent ? Eh bien, l'explication, le fruit n'arrive pas parce que leur cœur n'a pas réglé certains problèmes. C'est ce que dit Luc, enfin Jésus dans Luc. Il faut bien comprendre ces choses. Parce que c'est un sujet très sérieux, le fruit de la justice. La Bible termine avec un avertissement des plus sévères possibles que celui qui est juste pratique encore la justice. Et que celui qui se souille encore. Je vous rappelle qu'il parle à des chrétiens. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 8, le Seigneur parle de quatre catégories de cœurs. Quatre catégories de cœurs. Il y a le cœur qui ressemble à un chemin. Il y a le cœur où il nous est parlé des pierres à l'intérieur. Et au verset, alors où c'est qu'il ne porte pas de fruits ? C'est le verset 14. Un cœur, qu'est-ce qu'il nous est dit ? Ce qui est tombé parmi les épines. Ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Et ils ne portent pas de fruits qui viennent à maturité. Voilà. Il n'y a pas de possibilité que le fruit arrive. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont frustrés, ils ne portent pas de fruits. Pourquoi ? Parce qu'il y a des épines. Ben c'est sûr que vous verriez un paysan, bien sûr que ça va vous faire rire, un paysan semé sans désherber, sans passer la haie, etc. Vous diriez, mais il est fou. Il est fou ce paysan, ça ne va rien donner. Et pourtant, combien de chrétiens acceptent que la parole de Dieu soit semée dans leur cœur, comme peut-être c'est le cas ce soir, et qu'ils acceptent en même temps qu'il y ait des épines ou des cailloux. Alors les épines, c'est des choses extérieures, les cailloux, c'est des choses intérieures, ça parle des problèmes intérieurs, ça parle des problèmes extérieurs. Bon, les problèmes extérieurs, c'est des trucs qui se voient. Qu'est-ce qui est dit ? Et les soucis, tiens donc les soucis. Est-ce que les soucis, ça peut nous détruire ? Eh bien oui. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Qui n'a jamais de soucis ? Il n'y a personne ? Bon, c'est bien, vous êtes normaux. Je vois que vous êtes tous normaux. Les soucis, il faut s'en décharger. De tous. C'est un commandement. Les soucis. Et si vous ne le faites pas, eh bien, ça va devenir comme des épines qui vont vous étouffer. Les soucis, les richesses, les plaisirs de la vie. Vous voyez, si vous regardez les autres évangiles, il y a toutes ces choses de la terre qui sont des épines et ça empêche le fruit de mûrir. Alors ça fait que dans les églises, tout ça, ça nous étouffe et on ne voit pas quelle est la vérité. On ne voit pas quel est l'essentiel. C'est pour ça que j'ai commencé en nous posant la question, mais est-ce que je porte du fruit ? Parce que Jésus est clair, il dit, mais les arbres, on les reconnaît aux fruits. Et nous devons être quand même sérieux sous le regard de Dieu et dire, mais quel est le fruit que je suis en train de porter ? Le fruit de la justice. Alors je vous parle du fruit de la justice, on va lire un verset dans 2 Corinthiens au chapitre 9 pour parler du fruit de la justice. Je sais que vous ne vous doutez pas de mes propos, bien sûr. Mais ce texte revient souvent. On va en lire un ou deux. 2 Corinthiens chapitre 9. Les fruits. Parce que je suppose que quand vous allez passer devant Dieu, vous avez envie que ça se passe bien. Oui ou non ? Non ? Vous avez envie que ça se passe bien quand vous allez passer devant Dieu ? Moi, oui, je vous le dis. Moi, j'ai envie que ça se passe très bien. Et si nous ne portons pas de fruits, ça ne se passera pas si bien que ça. Alors, 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 11. Alors, vous serez... c'est le verset 10. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous voyez, le fruit de la justice. Hébreux chapitre 12. Celui-là est encore plus profond. Hébreux chapitre 12, verset 7. Il est parlé des épreuves. Toutes les fois où Dieu nous éprouve, ou même, et le mot est fort, il est parlé du châtiment.
Voyez au verset 6, Hébreux chapitre 12, quel est le, car le Seigneur châtie celui qu'il aime.
Châtier, c'est le mot, ça veut dire corriger pour instruire.
Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtiaient pour un peu de jours, comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit, plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Un fruit de justice.
Lorsqu'un chrétien accepte que Dieu le corrige, lorsqu'un chrétien accepte l'épreuve, s'il accepte bien, cela va provoquer en lui du fruit, un fruit de justice, le fruit de la justice. Mes frères et sœurs, je suis bouleversé quand je vois la quantité de chrétiens qui se contentent de la justification et qui font ce qu'ils veulent. Mais je peux vous dire que les regards de Dieu sont sur les justes, sur ceux qui pratiquent la justice. Alors j'aimerais lire avec vous quelques versets pour que vous compreniez bien qu'il faut bien faire la différence entre la justification et là est le fruit de la justice. Il y a des versets extraordinaires, vous avez certainement dû les lire. Actes chapitre 10, on va lire pas mal de textes, je vous conseille de les noter, parce que c'est comme ça que vous vivrez le psaume premier, « Heureux l'homme qui médite la parole de Dieu ». Ces versets, vous pouvez vraiment les méditer. Actes chapitre 10, verset 35. Regardez ce verset, s'il est beau. Enfin, si vous le vivez, vous allez vraiment l'apprécier. Regardez bien vraiment la portée de ce verset. Actes 10, verset 35. « En toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Il y en a un qui peut dire amen. Est-ce que vous rendez compte ce que Dieu dit? Partout sur la terre, s'il y a un homme qui a la crainte de Dieu, le respect de Dieu et qui pratique la justice, ça lui est agréable. Je le répète parce que moi je suis bouleversé de voir tant de chrétiens qui n'arrivent pas à faire la différence entre la justification et la pratique de la justice. Vous savez que c'est Salomon dans l'Ecclésiaste qui parle du sacrifice des insensés. Il dit, mais approche quand tu rentres dans la maison de Dieu, approche-toi pour écouter plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Vous l'avez lu ce verset? Vous l'avez lu, Céline? Bon, tout le monde l'a lu, oui? Et vous l'avez lu maintenant, vous le savez. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Mais quand vous regardez la quantité d'hommes de Dieu qui se sont fait piéger, je pense à Asaph. Vous vous rappelez Asaph, dans le psaume 76, quand il parle de son expérience, il est le responsable de la chorale de Jérusalem. Il a écrit des psaumes extraordinaires. Et dans le psaume 76, il en parle. Et il dit, mais voilà, il était tous les jours dans la maison du Seigneur. Tous les jours. Et pourtant, son cœur s'aigrissait. Son cœur était rempli d'amertume en regardant les autres. Il louait Dieu, mais il ne vivait pas avec Dieu. Il a passé un moment difficile et il va l'expliquer, la différence de la justice. David, dans le psaume 51, David, quand il a commis l'adultère avec Bathsheba et qu'il a fait tuer son mari Uri, qui était un homme intelligent en plus, et qu'il l'a fait tuer, lui aussi, pendant un an, il a fait la comédie. Il a fait la comédie. Regardez ce qu'il dit dans le psaume 51. Vous le savez qu'on peut faire la comédie? On peut faire la comédie, se lever dans une église et puis vivre dans le péché. C'est ça les sacrifices des insensés. C'est-à-dire que je suis là, je prêche, voilà, moi le premier. Et puis à la maison, si je n'obéis pas, Dieu pourrait me dire, mais tu pratiques le sacrifice des insensés. Regardez dans le psaume 51. Le psaume 51, c'est un psaume d'une profonde vérité. Il y a toute cette souffrance de David. Psaume 51. C'est un psaume que j'aime lire, hein, parce que ça s'est passé une fois qu'il a été confronté justement à Nathan. Regardez au début, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Donc ça, mais ça faisait un an. Dieu l'a laissé attendre un an. Est-ce que vous savez que Dieu attend aussi parfois pour voir comment on va réagir? Eh bien, l'homme de Dieu, mais il n'a pas réagi. Pendant un an, il a fait la comédie. Et il offrait des sacrifices, et tout le monde devait dire, oh, qu'est-ce qu'il est formidable ce David. En plus, un de ses officiers est mort à la guerre, et lui, il a pris sa femme. Quel type bien. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont dû penser ça. Et ce n'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé. Et lui, il offrait des sacrifices, et lui, il allait au temple. Vous lirez les psaumes. Et regardez ce qu'il dit à la fin, parce qu'il est pas, c'est un homme de Dieu. Il comprend. Voyez, au verset 18. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Il sait de quoi il parle. Il a fait ça pendant un an pour rien. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors, tu agréeras des sacrifices de justice. Voilà. Il va se mettre, maintenant qu'il est passé par une vraie repentance, il va se mettre à obéir. Parce que pendant un an, le brave roi qu'il était, il allait au temple, il offrait des sacrifices, mais il ne s'était pas repenti. Et c'est pour ça que Dieu demande la justice, les sacrifices de justice, à la place du sacrifice des insensés. Et si je fais un service dans l'église, n'importe lequel, mais que je n'obéisse pas, eh bien je pratique le sacrifice des insensés. Et ça se passera mal. Ça se passera mal parce que je peux vraiment me perdre. Regardez dans Luc au chapitre 18. Il y a beaucoup d'enseignements. Il y a peut-être 500 ou 600 enseignements dans la parole de Dieu qui en parlent. Alors je peux vous dire que si on les voit tous ce soir, je pense qu'on sera là dimanche pour le culte. On ne sera pas en retard. C'est bien. Dans l'évangile de Luc, Jésus va parler d'un croyant, d'un pharisien. Vous voyez qu'il lui aussi se persuadait qu'il était juste. Il se persuadait qu'il était juste. Pourquoi ? Mais parce qu'il faisait les choses qu'on attend des chrétiens. Luc chapitre 18, verset 9. Il dit encore cette parabole. En vue de certaines personnes, alors qu'est-ce qu'elles faisaient ces personnes ? Qu'elles se persuadaient qu'elles étaient justes. Vous voyez ? Des personnes qui se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisaient aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien, donc religieux, et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont ravisseurs, injustes, tenez-vous bien, adultères, ou même comme ce publicain, là, il se compare, je jeûne deux fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Alors il y a un petit peu, vous vous rendez compte comme il était juste le gars? Il jeûnait deux fois par semaine, il donne la dîme, il est dans le temple, il prie. On me dit, vraiment le publicain, lui, se tenait à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, se frappait la poitrine en disant « Oh Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Vous voyez, il se persuadait qu'il était juste parce qu'il lisait sa Bible, parce qu'il priait, parce qu'il allait au temple, parce qu'il jeûnait, etc. Mais en vérité, il ne pratiquait pas la justice. Et c'est là qu'on doit se poser la question, mais est-ce que je vis ce que Dieu me demande? Vous savez, quand je chante « Te ressembler Jésus », je vous assure que je réfléchis à deux fois avant de le chanter. « Te ressembler Jésus », c'est mon espoir suprême. On a chanté, moi, je n'ose pas le faire chanter ce cantique, tellement il est fort quand même ce cantique, non? Vous ne trouvez pas qu'il est fort? « Te ressembler Jésus », c'est mon espoir suprême, penser, agir, aimer toujours plus comme toi. Ça, moi je trouve que ça nous engage pas mal. Oui ou non? Vous l'avez chanté tout à l'heure? C'est pour vous dire le décalage qu'il y a parfois entre ce que l'on dit et ce que l'on vit. Et Dieu ne nous demande pas de faire des choses pour les faire, Dieu nous demande de pratiquer la justice. Regardez encore aux pharisiens. Aux pharisiens dans Matthieu 23, c'est facile à retenir. Regardez, c'est le même cas de figure. J'en ai parlé jeudi soir à la réunion d'évangélisation. Matthieu 23, c'est pareil. Il va faire un reproche au pasteur d'une sévérité pas possible. Il les traite d'hypocrites et quand il leur dit malheur, malheur à vous, d'après vous, qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus disait à quelqu'un malheur à vous? Ça signifie quoi? Est-ce que vous vous rendez compte? Traiter des pasteurs d'hypocrites. On peut le faire aujourd'hui, ça? Ça pourrait se faire? Bon, Matthieu 23, verset 23. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'anise, du cumin, et vous laissez ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses. » Oui, il faut être fidèle dans la dîme, dans la prière. Il faut être fidèle dans son service, dans la maison du Seigneur. Mais on peut faire tout ça sans obéir. Vous rappelez Michée ? Michée, à un moment de son ministère, il a le souci de savoir comment il doit faire pour être meilleur serviteur. Est-ce que c'est bien ça ? Qu'un pasteur arrive à un moment donné où il veut être meilleur. Est-ce que c'est bien ? Bien sûr, il dit, voilà, mais comment me présenterai-je devant Dieu? Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois offrir davantage de torrents d'huile? Est-ce que je vais offrir ceci? Est-ce que je vais sacrifier cela? Et puis la réponse de Dieu vient, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, c'est que tu pratiques la justice, que tu marches humblement avec ton Dieu et que tu aimes la miséricorde. Dieu lui dit, voilà, mais tu veux me servir mieux? Tu veux savoir ce qu'il y a de mieux? Eh bien, pratique la justice. Parce que je vous dis, on peut tout faire, et c'est ça que le diable veut en vérité. Il veut qu'on fasse tout un tas de choses sans obéir. Le gars qui porte du fruit de la justice, c'est le gars qui a décidé de pratiquer la vérité. Il obéit à Dieu, c'est ce que je disais à ce gars dimanche qui essayait de me prouver qu'il était chrétien, et je vous assure, je ne pouvais pas me tromper, je n'avais pas besoin de discernement vraiment pour en arriver là. Je lui ai dit, mais non, il faut obéir à Dieu. Un chrétien, c'est quelqu'un qui obéit au Seigneur Jésus-Christ. En plus, quand vous lisez, si vous prenez le temps, avec une concordance, il n'y a rien de plus facile. Aujourd'hui, on n'a pas d'excuse. Vous tapez tout le monde dans Internet, vous tapez sur concordance biblique et vous tapez justice, vous allez voir les centaines de textes qui vous indiquent ce qui arrive au juste, mais je vous assure que c'est impressionnant. J'ai un verset, moi, qui m'a énormément aidé à travailler ce sujet, c'est quand il est dit dans Ésaïe 64, « Tu vas au-devant de celui qui pratique avec joie la justice ». Ça vous encourage pas, pour ceux qui prennent des notes, Ésaïe 64, verset 4, pour ceux qui apprennent des versets par cœur également. Un autre verset qui est important. Moi, c'est un texte qui m'a fait beaucoup réfléchir. C'est dans la première épître de Jean. On va peut-être terminer parce que je vois que l'heure tourne. 1 Jean, regardez avec moi s'il vous plaît. C'est une affaire sérieuse, ça, parce que le diable, il essaiera de vous faire croire que d'aller à l'église, de prendre la Sainte-Cène, de prier et de lire, c'est suffisant. Ce n'est pas vrai, vous l'avez compris avec ce qu'on vient de lire. L'apôtre Jean, qui est appelé l'apôtre de l'amour, va lui expliquer la différence entre pratiquer le péché, il parle à des chrétiens, et pratiquer la justice. 1 Jean, chapitre 2, verset 28. On va lire, oui, à partir du verset 28. Vous y êtes, mes frères et sœurs. Lisez bien, ce sont des textes qui vous montrent que nous avons besoin de faire des progrès, croyez-moi. 1 Jean, chapitre 2, verset 28. « Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance, et qu'à son avènement, nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui. » Un verset de plus qui prouve que le chrétien peut perdre le salut. Oui ou non? Vous savez que j'ai presque envie de faire un fascicule avec tous les versets qui montre qu'on peut perdre le salut. Parce que dans les assemblées de Dieu, même aujourd'hui, nos assemblées, on indique qu'on ne peut pas perdre le salut. Est-ce que ce verset nous laisse entendre qu'on peut perdre le salut? Bien sûr, c'est clair. Si vous ne le voyez pas, eh bien, c'est que vraiment vous êtes aveugle. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. On va au chapitre 3, verset 6. Quiconque demeure en lui ne pratique pas le péché. Quiconque pratique le péché ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Donc quelqu'un qui est justifié éprouve le besoin de pratiquer la justice. Verset 8. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu
afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher, parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, ni celui qui n'aime pas son frère. Vous reprendrez le temps de méditer ces choses, et l'apôtre Jean explique que quelqu'un qui est justifié a besoin de pratiquer la justice, donc d'obéir. Et que celui qui n'est pas justifié, son père, c'est le diable, et il pratique le péché. À ne pas confondre avec un péché involontaire que l'on peut commettre, bien sûr, comme je viens de le dire, involontairement. Je l'ai déjà dit la semaine dernière, il faut faire la différence entre quelqu'un qui commet un acte, je sais pas moi, de méchanceté inopinément, il n'a pas voulu le faire, il s'est laissé emporter, il s'est fait avoir, il est énervé, et puis le gars qui est tout le temps méchant. Vous faites la différence quand même. Je pense qu'on fait la différence. Celui qui a été méchant involontairement, il va vite, vite, vite s'empresser de réparer, je te demande pardon, j'ai été méchant, je regrette vraiment ma méchanceté. Voilà, c'est un péché qui n'a rien à voir avec le péché volontaire. Il y a des gens qui sont tout le temps en train de mentir, tout le temps en train de voler, tout le temps en train de pécher. Moi, je fais quand même, pas moi, la Bible fait vraiment la différence. Il y a celui qui pratique le péché et celui qui pratique la justice. Et le juste, la Bible dit que si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur. Parce que l'impie, c'est le chrétien qui vit dans le péché. C'est le chrétien qui choisit de vivre dans le péché. Et ça, mes frères et sœurs, c'est pour ça qu'on dit, mais pourquoi il n'y a pas de réveil? Pourquoi les églises n'ont pas cette onction du Saint-Esprit? Bon, c'est vrai qu'on a chanté « Répands sur moi ton huile sainte », tout ça, bon. Mais c'est bien, tu as bien fait de le chanter, mais ça ne sert à rien. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut être honnête jusqu'au bout. Ne t'inquiète pas, Jonathan, tu as bien fait de faire chanter ce cantique, il est spirituel. Mais ce que je veux dire, c'est que ça ne sert à rien de chanter ça si on ne pratique pas la justice. Ça ne sert strictement à rien. Et le diable, il doit se marrer lorsque dans les églises, on chante des trucs pareils et que demi-heure après la réunion, on est en train déjà de pratiquer le péché. Le juste, il pratique la justice. Alors, on pourrait multiplier les exemples. Moi, j'ai vraiment de quoi vous en donner. Mais, mes frères et sœurs, il faut qu'on soit sérieux. Le Seigneur, il attend le fruit de la justice. C'est quelque chose de solennel. Moi, je vous assure, si vous ne pouvez pas vous imaginer comment mon cœur il a été blessé de voir tant de chrétiens. Mais il y a des chrétiens qui mentent, mais ça ne leur fait rien du tout. Vous savez, j'ai entendu plusieurs fois que dans des léproseries, c'est vieux, c'est dans des vieux livres que j'ai lu ça, il y avait des endroits où le matin, des gens se réveillaient, des lépreux, athées bien sûr, les rats leur avaient mangé les orteils, ils s'en étaient même pas rendus compte. Vous savez que la lèpre, c'est l'image du péché. Et je peux vous dire une chose, mes frères et sœurs, c'est à bon escient que Jésus a pris cette image. Il y a des gens, le monde où le diable est en train de les ronger, ils ne s'en rendent même pas compte. Parce qu'ils n'ont pas été sérieux. Je pense que ça vient aussi de la chair. Que si les pasteurs, on avait dit aux gens, écoutez, ou vous êtes chrétien, ou vous êtes païen. Est-ce que c'est biblique ça? Oui, c'est biblique. On va terminer d'ailleurs avec ce verset. C'est dommage que je n'ai pas le temps de poursuivre, parce que franchement, il y a vraiment, c'est un sujet presque inépuisable. Au niveau biblique, il est presque inépuisable. Mais la Bible termine avec cet avertissement des plus sévères. On va vraiment terminer avec celui-là, parce que quand même le retourne, je pense que ça suffit. Mais regardez Apocalypse 22, c'est le dernier avertissement de Dieu. Moi, je n'aurais pas osé le dire de moi-même. Bon, d'ailleurs, je pense que tout ce qui doit être prêché doit être que la parole de Dieu. Mais des fois, on peut commenter certains versets bibliques. Donc, regardez Apocalypse 22. C'est quelque chose de sérieux. C'est grave le péché. Et Dieu termine parce qu'il nous laisse libre. Moi, je ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous obliger. Si vous voulez vivre dans le péché, vivez dans le péché. Ce n'est pas moi qui vais venir vous ennuyer. Apocalypse 22, verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Il parle à des chrétiens, vous le comprenez. Que celui qui est souillé se souille encore. Et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Vous voyez bien que là, la justice, là, c'est clair, ça n'a rien à voir avec la justification. Et c'est pour ça que plein de gens confondent. Et je pense que si les gens sont dans un brouillard total, c'est parce qu'ils ne sont pas sérieux avec la parole de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a des chrétiens qui ont 15 ans de conversion et qui ne sont pas capables de faire la différence entre la justification et la pratique de la justice. Moi, je trouve que c'est quand même, même si le pasteur n'a pas pris le temps de bien expliquer, comme je le fais ce soir, il me semble que quelqu'un qui aime vraiment le Seigneur de tout son cœur, en lisant la Bible, il finit par le découvrir tout seul. Oui ou non? Quand même, quelqu'un qui aime Dieu, il lit la parole et il va le découvrir. Et je peux vous dire que suite à cette étude, si vous lisez le livre des Proverbes, si vous prenez rien que le livre des Proverbes, que vous lisiez le livre des Proverbes après cette exhortation, vous allez être ébloui de voir le nombre de fois où Dieu met en contraste le juste et le méchant. Et il parle des chrétiens il parle, parce que le méchant, c'est un croyant qui n'obéit pas à Dieu. Ça n'a rien à voir avec le pécheur. Ça, il faut bien le comprendre. C'est des choses toutes simples qu'on apprend à des débutants. Mais mes frères et sœurs, il faut bien comprendre la différence entre le juste et le méchant. Et si vous n'obéissez pas, vous êtes en danger. Et certains vont rester sur le carreau quand Jésus va revenir, parce qu'on ne leur a pas dit ça. Parce que peut-être on a peur que vous partiez, les pasteurs ont peur que certains partent. Si on dit à des gens qui sont dans le péché, ils vont partir le dimanche, ils ne vont pas mettre leur petite au bol pour donner au pasteur, ça va manquer à l'église. Écoutez, moi je pense que ce n'est pas ça le problème. Moi ce que je veux, c'est ce que Dieu veut, c'est que vous alliez au ciel. Si vous voulez vous souiller, ben souillez-vous. Si vous voulez pratiquer l'injustice, ben pratiquez l'injustice. Si vous aimez le péché, ben péchez. Ça peut vous choquer ce que je vous dis. Ça vous choque ce que je vous dis? Si vous aimez le péché, mais péchez. Si vous voulez être un pécheur, mais soyez un bon pécheur, un vrai pécheur. Ne jouez pas la comédie et l'hypocrite, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il en fait Jésus des tièdes? Qu'est-ce qu'ils font les tièdes? Parce que les tièdes, ils surfent. Ils se disent, bon, je suis chrétien, je vais à l'église, je vais à l'église, Seigneur, il le voit. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je vais à l'église, je lis ma Bible. Je prie. Mais la Bible est catégorique, les tièdes, qu'est-ce qu'il a dit Jésus? Voilà. C'est pas moi qui le dis. Moi, j'aurais pas osé dire un truc pareil. Je ne me serais pas permis. Moi, j'aurais dit, écoutez, vous êtes tiède, c'est bien. Il vaut mieux être tiède que froid. C'est pas ça que nous, on aurait dit? Est-ce que vous auriez pas dit ça à vous? Moi, sincèrement, il n'y aurait pas Apocalypse chapitre 3. J'aurais dit, écoutez, vous êtes tiède, c'est pas la meilleure position. Mais écoutez, c'est pas encore trop mal, il y a un peu de chaleur encore. Le Seigneur, il n'est pas du tout pareil. Il dit, mieux vaut être froid que tiède. Parce que quand tu es froid, quand tu es dans le péché, vraiment, quand tu es dans le péché, tu le sais que tu es perdu. Tandis que quand tu es tiède, tu ne le sais pas. Et c'est pour ça que Dieu dit, mais mieux vaut être froid que tiède. Parce que quelqu'un qui est tiède, il est bien dans l'église, il est content, il connaît des chrétiens, il connaît les cantiques. Moi, je connais des cantiques. Il y a des gens, des fois, ah, vous savez, monsieur Gros, je suis un bon chrétien, je connais presque tous les cantiques par cœur. J'ai dit, c'est bien. Vous voyez, bon, je ne sais pas pourquoi ces gens me disent ça, mais ce n'est pas parce qu'on connaît tous les cantiques par cœur. Il y a des pasteurs qui iront en enfer et ils connaissent la Bible sur le doigt des ongles. Il y a des gens qui exercent les dons spirituels, qui font des miracles et des prodiges. C'est écrit ou c'est pas écrit? C'est écrit où? Oui, Matthieu. Et le Seigneur, il le dit. Il le dit. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui rentreront dans le royaume des cieux. Mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Mais plusieurs me diront en ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Je leur dirai ouvertement, c'est pas moi qui parle, c'est Jésus. Je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. C'est d'une... sévérité, pas possible. Vous voyez bien qu'un chrétien peut perdre le salut, que les pasteurs peuvent perdre le salut. C'est pas parce qu'on prêche la parole qu'on obéit à Dieu. C'est ça, pratiquer la justice. Et il y a des gens qui s'imaginent que parce que quelqu'un, vous voyez, moi je prêche, mais il n'y a que Dieu qui sait si je lui obéis. Qui sait si je ne vis pas dans le mensonge? Qui sait si je ne vis pas dans l'adultère? Qui le sait? Qui le sait? Qui vous prouve que je ne vis pas dans le péché? Je tiens à vous rassurer quand même. Mais sérieusement, on rit,
Mais on rit parce que la façon dont je vous le dis, mais vous comprenez que c'est ça. On apprend des scandales, on n'en apprend pas des scandales. On apprend tout le temps. On apprend que tel pasteur là, a été surpris, etc. Que tel a fraudé, etc. Machin. Vous voyez ? Et il prêche aussi bien que moi. C'est pour ça que le Seigneur est catégorique, et vous devez l'être vous aussi. Vous devez accepter l'idée que Dieu soit exigeant. Si vous n'acceptez pas l'exigence de Dieu, vous êtes pas, vous n'avez rien compris. Vous devez accepter ce dernier avertissement, que celui qui se souille, et que celui qui se sanctifie. Et là, on va terminer en priant. Et vous devez choisir. Vous devez dire, voilà, où je me souille, je continue à vivre dans mon péché, dans mon adultère, dans ma débauche, dans mon mensonge, tout ce que vous voudrez. Voilà, c'est pas, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas un ange qui va venir vous empêcher. Ou alors vous dites, non, moi je veux pratiquer la justice, moi j'ai envie d'être debout quand Jésus viendra me chercher. Moi, je ne veux pas être que justifié et me contenter de la justification. Je comprends que la justification, ça marche avec la pratique de la justice.